Respecter une langue, c'est respecter le mode de pensée qui s'exprime à travers elle. Respecter une langue, c'est aussi, à travers elle, respecter une culture, un peuple. C'est à partir de cette idée que l'UNESCO a décidé, il y a 14 ans, de faire du 21 février, aujourd'hui, une journée mondiale de la langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle qui est transmise à l'enfant par ses proches à la maison, pas toujours celle qu'il apprend ensuite à l'école. Comment conjuguer sa langue maternelle et une autre langue? Comment les enfants apprennent-ils les langues? Quels sont les risques, les avantages à apprendre plusieurs langues simultanément? Les invités de votre quotidien en question ce vendredi sont linguiste et pédopsychiatre. La linguiste, c'est vous, Barbara Abdelilabauer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi psychosociologue, fondatrice de Café Bilingue, auteur d'un guide à l'usage de parents d'enfants bilingues. Et bonjour à vous, Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Pédopsychiatre, directrice de la Maison de Solène, maison des adolescents à l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez écrit, entre autres, « Nos enfants demain pour une société multiculturelle ». Je me tourne d'abord vers vous, Barbara Abdelilabauer. Comment le tout petit enfant apprend-il une langue de sa maman, de ses proches, s'il n'y a pas de prédisposition à une langue en particulier?
Il y a une prédisposition d'apprendre à parler et l'enfant n'apprend pas une langue, il apprend à parler avec les personnes qui lui parlent, sa mère, son père, la grand-mère, la nounou. C'est ça en fin de compte, il apprend, il est imbibé, il est baigné dans un langage, il acquiert le langage, il va apprendre une, deux, trois langues en fonction des langues qu'on lui donne, qu'on lui parle.
Nous sommes tous à l'origine capables de parler toutes les langues.
Tout à fait.
Et avant même le stade de la parole, le nouveau-né est capable de reproduire des sons avant même de parler?
Mais bien sûr, avant de parler, le nouveau-né, le bébé produit des sons, ça commence.
Qui ressemble à ceux que prononcent ses parents ou
À partir de 8 mois à peu près, le babillage va ressembler aux sons qu'il entend dans l'environnement. Mais avant, les vocalises et le babillage ressemblent pas à la langue maternelle, mais à toutes les langues, à tous les sons de toutes les langues naturelles du monde.
Et qu'est-ce qui fait qu'il devient capable de les reproduire? C'est une question de maturité physiologique?
Ah, tout à fait, oui. Nous avons tous les êtres humains, ont cette capacité innée d'apprendre à parler. Tout simplement, on est avec cette capacité et ça se met en place tout naturellement à condition que cet enfant, ce bébé, soit en contact avec des êtres vivants, des êtres humains qui lui parlent en interaction.
Donc il y a bien une question de transmission.
Tout à fait. Oui.
Là où ça peut se compliquer, c'est quand l'enfant grandit et qu'il est potentiellement confronté à plusieurs langues, soit à la maison, lorsque les parents parlent deux langues différentes, soit à l'école, lorsque la langue parlée à l'école n'est pas celle qui est parlée à la maison. Peut-on vraiment apprendre deux langues simultanément? Question que je vous pose d'abord à vous, Marie-Rose Moreau. Vous suivez particulièrement des enfants nés de parents qui ont émigré, dont le français n'est pas la langue maternelle.
Oui, alors les enfants, ils peuvent tout faire sur le plan linguistique. Ils peuvent apprendre d'abord leur... Si à la maison, on ne parle qu'une seule langue maternelle, mais il y a des endroits où on peut en parler plusieurs, hein, où les couples mixtes peuvent en parler plusieurs aussi. Donc, mais on peut apprendre donc une langue maternelle, puis ensuite une langue seconde, et ensuite plein de langues pour aimer le monde, mais on peut aussi apprendre plusieurs langues en même temps. En réalité, les enfants, ils ont des capacités linguistiques très importantes qui diminuent avec le temps parce qu'en fait, les capacités qu'on n'utilise pas vont s'endormir, vont s'effacer, comme on dit. Donc, apprendre une langue à la maison et ensuite apprendre une langue à l'école, le français langue seconde, c'est très facile pour les enfants. La difficulté, elle apparaît lorsqu'on fait des hiérarchies entre les langues, lorsqu'on dénigre la langue maternelle, lorsque l'enfant n'a pas assez de stimulation linguistique en général, c'est-à-dire lorsque il n'a pas acquis un plaisir à parler, parce qu'on apprend à parler dans une langue particulière. C'est pour ça que cette langue maternelle est si importante, ou les langues maternelles, ou les langues qu'il a entendues par les personnes autour de lui quand il était petit, parce que c'est ce plaisir-là qui va lui donner l'assurance qu'il peut parler. Ensuite, qu'il parle une langue, deux langues, trois langues, c'est une richesse, on le sait, pour les langues qu'on considère comme grandes, l'anglais qui nous permet de parler avec tout le monde, les langues que l'on valorise. Et on l'oublie pour les langues des enfants de migrants. Il y a là un préjugé qui fait mal aux enfants et qui fait mal à l'école et qui ne nous permet pas de développer cette richesse incroyable de toutes les langues présentes dans notre école aujourd'hui.
Comment se comporte l'école française face au bilinguisme, au multilinguisme, d'après vous, Barbara Abdelilabauer?
Mais l'école française a très longtemps, jusqu'à récemment, renier tout simplement les capacités ou les connaissances des enfants qui sont à l'école. On arrive à l'école, le petit enfant arrive à l'école et on lui dit ce que tu fais chez toi, qui tu es, ce que tu parles chez toi, ça ne m'intéresse pas. Ici, on parle français, tu dois apprendre le français. On fait comme si ces enfants étaient une feuille blanche sur laquelle on va écrire la belle langue, la seule et unique dont on a besoin en France. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Et comme disait Marie-Rose Moreau, le problème, c'est que la plupart des langues des enfants parlées à la maison, qu'on appelle les langues minoritaires, ne sont pas reconnues. Et de ce fait, ce n'est pas une question de capacité cognitive ou du cerveau de l'enfant devenir bilingue. C'est un problème du regard des autres, c'est un problème de hiérarchisation des langues, c'est un problème de reconnaissance ou de non-reconnaissance d'une langue. Il est facile de devenir bilingue avec l'anglais ou l'allemand, mais il est très difficile de devenir bilingue avec le soninké, le berbère, ou d'autres petites langues entre guillemets. D'ailleurs, ces enfants, on leur dira jamais vous êtes bilingue, on dira vous avez un handicap pour réussir à l'école.
Comment aider les enseignants aussi à reconnaître ces langues? C'est pas forcément évident pour eux. Je sais, Marie-Rose Moreau, que vous parlez d'eux comme des passeurs. Enfin, c'est ce qu'ils devraient être, des passeurs entre deux rives.
Mais ils le sont souvent. Lorsque les enseignants ont conscience de cette richesse linguistique, il faut aller au-delà de préjugés. Barbara le disait très bien. Il y a des préjugés individuels et collectifs et qui font que cette richesse linguistique nous apparaît comme un obstacle. Et on parle de plurilinguisme, on parle de dialecte. Non, tout ça, c'est les langues, c'est la richesse des langues des enfants. Et à partir de cette richesse linguistique, ça fait du bien aux enfants de cette reconnaissance. Et ensuite, ça leur permet d'apprendre le français. Et chose importante, et je pense qu'on est en train d'en prendre conscience, la reconnaissance de cette pluralité linguistique à l'école, ça permet aussi de faire du bien à tous les autres enfants, les pauvres enfants monolingues qui n'ont qu'une seule langue.
Eh bien, ils vont, et de les ouvrir vers un autre.
Voilà,
un autre
ils vont s'ouvrir, aussi, ils vont apprendre des mots, ils vont comparer, ils vont se dire c'est possible, et on va parler de mieux en mieux toutes les langues.
Dernière question que je voulais vous poser, est-ce que les enseignants sont assez formés en linguistique?
D'abord, les enseignants sont de très bonne volonté. Je n'ai rencontré que des enseignants de bonne volonté qui ne savent pas trop comment faire, d'accord? Donc, ce qui manque, c'est une bonne formation des enseignants. C'est pas du tout nécessaire d'être fort en linguistique, d'être formé à toutes les langues. Il faut juste être ouvert, curieux et faire de cet apport de ces langues qu'apportent les enfants une richesse et de jouer avec ces langues en classe. Et juste un mot, notre association Café Bilingue prévoit, est en contact avec des écoles et on peut s'adresser à nous. Nous avons les moyens de faire d'aider et d'accompagner les enseignants dans cette démarche.
Et je précise, Barbara Abdelilabaour, que vous êtes vous-même trilingue, auteur du défi des enfants bilingues, grandir et vivre en parlant plusieurs langues, d'un guide aussi à l'usage des parents bilingues, c'est aux éditions La Découverte. Marie-Rose Moreau, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de Nos enfants demain pour une société multiculturelle, c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci à toutes les deux.